Chapitre 7e. Le retour de Martin Numa. Le lendemain, après 3 ou 4 heures de sommeil agité, et comme on le pense bien, à tout instant occupé de songes affreux, je m'éveillais. Je me demandais, en cherchant à rappeler mes esprits, si tout cela n'était pas uniquement un cauchemar, si j'étais bien allé hier en compagnie de Prosper, à Passy, si avec Martin Numa j'étais entré chez le chevalier Fontis, si enfin j'avais assisté à ce terrible duel. Je me demandais même comment il se faisait que ce matin je me trouvais chez moi, couché dans mon lit comme d'habitude, quand je ne me souvenais plus si j'étais rentré, si je m'étais déshabillé, si enfin je m'étais couché. Or, j'étais parti de chez le chevalier avec les gros vêtements que Prosper m'avait aidé à passer dans la voiture, le costume qui devait me garantir du froid dans cette nuit de trappe, de chasse à l'affût. J'étais donc rentré avec ce costume. De ceci, j'étais absolument certain. Je n'avais pu changer d'effet encore une fois en chemin. Or, ce matin, ce costume avait disparu de chez moi, et sur le dos d'une chaise se trouvait mon costume de ville. Au porte-manteau de l'antichambre était suspendue ma pelisse, et mon chapeau se trouvait à sa place habituelle. Qui les avait apportés, accrochés là? Qui m'avait accompagné, remonté chez moi, couché en quelque sorte? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne le devinais en aucune façon. D'ailleurs, peu importait pour le moment, je me sentais sinon reposé, du moins éveillé. Je ne m'attardais pas à chercher la solution de ce petit problème que Martin Numa me communiquerait plus tard. Je m'habillais vivement pour aller prendre des nouvelles de mon ami, savoir comment il allait, comment il supportait sa blessure, son coup de poignard. Comme cette idée me harcelait, une terrible pensée m'étreignit soudain à la gorge. Je me demandais si le poignard qui avait frappé Martin Numa n'était pas empoisonné. Ces gens, nous en avions la preuve avec la pomme de ce brave homme de Bessette. Ne reculez pas devant cet odieux crime de l'empoisonnement pour se débarrasser d'un ennemi, de quelqu'un pouvant seulement contrarier leur plan. J'éprouvais à cette idée une véritable angoisse, une sorte de terreur. Si le poignard était empoisonné, Martin Numa, à cette heure, malgré toute sa vaillance, malgré son courage, son énergie, était un homme mort. Si le poignard était empoisonné, Martin Numa avait dû périr dans des souffrances épouvantables. Or, c'était horrible. Cette pensée seule me faisait mal, me torturait. J'allais donc sortir pour me rendre chez Martin Numa, quand le fidèle Prosper rentra chez moi. « Ah ! M'écriai-je, allant à lui vivement. « Eh bien ? Le chef va bien, aussi bien que possible. Le coup de poignard ? Très profond, très grave. Pas empoisonné, l'arme ? Non, heureusement. Ah ! Je respire, tant mieux. C'est un bonheur. Je redoutais. » Ces gens qui assaisonnent les pommes au dessert de strychnine sont capables de corser leur poignard de curare. « Non, me dit Prosper, il n'en est rien. Nous avons eu tous la même anxiété que vous, la même terreur. Mais le chef qui sait tout, qui comprend tout, nous a tout de suite rassurés sur les suites de sa blessure. Ce poignard ne pouvait être empoisonné. Il nous a expliqué pourquoi. Pourquoi, Prosper? Je suis curieux de le savoir. Ces gaillards empoisonnent, il est vrai. Parfois leur arme de traître. Mais ils ne le font qu'à bon escient, quand pour eux il ne peut y avoir en retour aucun risque au cours de l'assassinat. Ils n'empoisonnent leurs armes que quand ils vont frapper par surprise, dans le flanc, en passant, dans le dos, par trahison. Quand la victime, surprise, sera frappée à coup sûr, sans qu'elle puisse opposer de la résistance, se défendre, livrer bataille. Mais quand on ne sait comment se présentera l'assassinat, quand on risque le combat, dans ce cas, jamais l'arme n'est empoisonnée, cela se comprend. En effet, il se peut qu'au cours de la lutte, le poignard se tourne contre celui qui le manie. Un faux mouvement, un coup donné de travers, repoussé, paré, une main arrêtée, forcée, et celui qui allait frapper peut être blessé par sa propre arme. Or, si dans ce cas elle est empoisonnée, l'homme se tue lui-même. Très juste. Hier, comme les malfaiteurs se doutaient que le chevalier se défendrait énergiquement, ils n'ont pas empoisonné leur poignard. Martin Numa, donc, avait raison de nous dire que sa blessure était tout simplement un coup de poignard, et qu'elle n'aurait d'autres conséquences que celle d'une plaie profonde et douloureuse à la cuisse. Tant mieux. Si vous saviez comme cela m'enlève de mon anxiété. Le chef s'en est douté. C'est pour cela qu'il m'a donné l'ordre de venir vous rassurer. Hein, merci. Je dois vous dire, en même temps, que le chef vous recommande expressément de ne parler de tout ce qui s'est passé hier à personne, personne, de n'en souffler mot même dans votre journal. Quel beau reportage, cependant. Il ne sera pas perdu. Comment va le chevalier? Il a eu naturellement de la fièvre, mais après le pansement du docteur Gouget, il a pu dormir. aujourd'hui ça va aussi bien que possible. » Non sans inquiétude, je m'informais auprès de Prosper si les événements de la veille n'avaient pas transpiré, si dans la presse rien ne se savait. Prosper me répondit que pour cela, il fallait qu'une indiscrétion fût commise par ceux qui avaient assisté aux événements, ceux qui avaient pris une part quelconque. Du côté du chevalier, de Martin Numa, de mon côté, le secret serait bien gardé. Donc, pour que dans Paris on sût quelque chose, il fallait que les ennemis eux-mêmes eussent cette idée de dévoiler l'aventure. Or, comme elle n'était pas à leur avantage, on devait espérer qu'ils observeraient le silence. « Cependant, m'écriai-je, ce silence ne peut être longtemps observé. Pourquoi ? Il y a un mort. Oui, l'adversaire du chevalier, c'est vrai. » Prosper ajouta en riant. « Le chef nous a dit à ce propos, on prétend que les morts seuls ne parlent pas. Eh bien, nous ferons parler celui-là. » Tout de suite, il l'a fait envoyer à la nouvelle morgue où il est conservé en parfait état. On le laissera là. Si vraiment c'était, comme il l'a déclaré au chevalier Fontis, un gentilhomme, si c'était le baron Pompéry, au bout de quelques jours, sa disparition serait remarquée. Elle inquiéterait ses amis, sa famille, ses compatriotes. En effet, on le réclamera, on le recherchera. Et je crois que pour le faire découvrir, le chef imaginera un coup formidable, qui fera scandale, sensation, qui provoquera un émoi intense parmi la colonie italienne, dans tout Paris. Je demandai encore à Prosper, mais l'homme évanoui, celui qui accompagnait le baron Pompéry, celui qui a disparu étrangement. Oh, celui-là nous comble d'admiration. Il est merveilleux. C'est un homme extraordinaire, fantastique. Le chef est absolument sûr de lui avoir cassé un bras, démis l'épaule. Cet homme s'était, sous le coup de la douleur atroce, évanoui à terre. Même les morsures de Tintin n'ont pu le tirer de sa torpeur. Je me souviens. Il n'a dû revenir à lui que pendant le duel. Alors il a eu cette force de volonté, cette énergie d'attendre la fin du combat, d'attendre le moment où il a été seul, de se lever avec un bras cassé, de venir à son compagnon, de lui couper le poignet et de fuir. C'est inouï. C'est comme vous le disiez, fantastique. De plus, il a eu cette présence d'esprit de fuir par un autre chemin que celui de sa venue dans l'hôtel. Il est parvenu à nous échapper. Comment ? Nous ne le savons encore. Par l'échelle de corde, dont Martin Numa avait coupé les montants. Non. Il serait tombé à terre, et malgré tout il n'aurait pu résister à une nouvelle blessure, à une nouvelle douleur, non. Le chef pense que pendant que nous étions occupés à la grille du jardin et dans la maison, le bandit s'est caché dans le fond du parc, et que, de là, des complices ont pu l'enlever, en passant par les jardins des propriétés voisines. C'est le seul moyen plausible. Notre souricière, si complètement établie qu'elle fût, ne nous permettait pas, en effet, d'enserrer tout un quartier. C'est impossible. Le chef, lui, trouve la conduite de cet homme tout bonnement admirable et déclare que ces gens sont des adversaires merveilleux. 4 jours plus tard, mon ami Martin Numa débarquait à midi chez lui en tenue de voyage avec sur le taxi qu'il ramenait rue Le Pic une malle et divers colis. Ce matin-là, tous les journaux avaient annoncé l'arrestation, en province, au moment où il gagnait la frontière, des auteurs du crime de Saint-Ouen. Les assassins de la receleuse épicière, sur la trace desquels Martin Numa parut se lancer avec ardeur, le soir même où nous allions à l'affût des fantômes de neige et empêcher le meurtre du chevalier Fontis, était pris. Naturellement, le nom de Martin Numa fut donné à cette occasion. Tout permettait de croire qu'il avait fortement contribué à cette arrestation et laissait entendre qu'ayant été, pendant ces quelques jours, absent de Paris, il rentrait vraiment d'une excursion. Prévenu par Prosper, je me trouvais chez mon ami quand il arriva chez lui. « Je n'ai nullement la prétention, me dit-il, quand je lui félicitai de son courage et lui manifestai ma joie de le revoir en bonne santé, je n'ai nullement la prétention de faire accroire à mes ennemis que, me trouvant à la poursuite de ces assassins, je ne pouvais être en même temps, ce soir-là, chez le chevalier Fontis. Était-ce impossible ? Pourquoi ne le croirait-il pas ? Parce que l'homme avec qui j'ai lutté, celui qui m'a blessé, m'a formellement reconnu. Il a, dans sa terreur, crié mon nom. Il a dû, maintenant qu'il est retourné avec les siens, leur dire qu'il s'est battu avec moi. Il a dû leur certifier qu'il m'a fortement blessé. C'est probable, en effet. C'est certain. D'ailleurs, il ne me déplaît pas que ces gens sachent bien que c'est moi qui les ai surpris, que c'est moi qui ai abîmé un des leurs, et que c'est grâce à moi que le chevalier Fontis a pu, échappant à ses bourreaux invisibles, tuer son adversaire. C'est une façon de leur dire, à bon entendeur, salut. Oui, cela veut leur dire que la partie est maintenant bien engagée et que l'heure est venue de frapper un bon coup. Mais ne pouvant leur cacher ma présence chez le chevalier Fontis, je veux qu'ils soient doublement et grandement surpris en me croyant aujourd'hui de retour d'une expédition en province. Je veux aussi leur faire entendre que je ne suis pas blessé, malgré l'affirmation de leur compagnon, qui vous a donné le coup de poignard. Vous souvenez-vous le soir où j'ai rendu visite au marquis Primo? J'ai été gratifié par le marquis d'un beau coup de sabre au bras. En effet, on a trouvé sous la tenture où je me tenais caché et dans les draps du lit dans lesquels je m'étais roulé, les traces de sang qui coulaient de ma blessure. En plus de l'X rouge et de l'empreinte que vous fîtes sur l'oreiller. Oui. Or, ce soir-là, avec mon coup de sabre encore tout frais, je me suis montré dans le café où nous avons fait une partie de jaquet. L'espion m'a vu jouer avec vous, puis remonter tranquillement chez moi. Je n'avais pas l'air d'un homme blessé. Non, en vérité. Donc, s'ils ont eu un moment cette idée que c'était bien moi, le visiteur nocturne, que c'était bien moi qu'on avait blessé, ils ont dû, cette fois déjà, être détrompés par les déclarations de l'espion qui me suivait ce soir-là. Très juste. Aujourd'hui, je reviens de voyage, donc je n'ai pu recevoir le coup de poignard dont leur parlera assurément l'homme que j'ai, pour ma part, mal arrangé. Ces gens-là, m'écriai-je en riant, ne doivent plus rien comprendre à tout cela. Martin Numa se trouve partout à la fois. On le blesse, ce n'est pas lui qui a la blessure, c'est fantastique. On va finir par dire que, comme le marquis, Martin Numa est double. Martin Numa s'était étendu sur un divan et, pour ne pas en perdre l'habitude, alluma une cigarette. « Ah, fit-il, je suis tout de même bien content de me trouver chez moi et de vous voir, mon bon Courville. Je suis heureux aussi, mon cher ami, de vous voir là. » Martin Numa me dit « Vous ne supposez pas que j'ai perdu mon temps dans mon lit à l'hôpital et que je suis pendant 4 jours demeuré sans rien faire. Cela eût été bien différent de vous-même. » Il fit signe à Prosper. « Donnez-moi donc, lui dit-il, la fiche du mécanicien du comte di Villarcervoli. » Prosper était allé la veille l'acquérir à la maison secrète de Martin Numa et avait préparé pour ce matin le petit dossier que devait lui réclamer son chef. Pendant que Prosper se trouvait dans le cabinet de travail de son chef, Martin Numa me dit « Par simple précaution, tandis que nous tenions ce singulier mécanicien, j'ai fait établir sa fiche. » Elle pouvait peut-être, un de ces jours-ci, nous être très utile. Et vous voyez qu'aujourd'hui, elle va nous servir. » Martin Numa ajouta. « D'un autre côté, j'ai fait bertillonner, c'est-à-dire prendre la mensuration de l'adversaire du chevalier Fontis. « Quoi ? » m'écriai-je. « Vous croyez que cet homme ?» Martin Numa m'arrêta. « Je ne crois rien, mon cher Courville. Je ne fais jamais de suppositions. Vous savez bien que je ne me fie ni aux présomptions, ni aux apparences. » J'aime les choses précises et ne recherche que les faits logiques. Donc, sans formuler aucune conjecture, sans rien vouloir imaginer de plus ou moins vraisemblable, j'ai, à titre de renseignement pur et simple, prié le chef du service des fiches anthropométriques de bien vouloir aller mensurer l'homme inconnu que nous avions fait transporter à la morgue. « Vous dites l'homme inconnu, » m'écriai-je. « L'homme inconnu, sans doute. » « Vous ne vous souvenez donc pas qu'avant le duel, cet homme donna son nom au chevalier Fontis ?»« Si. Vous savez bien que j'ai une mémoire admirable. Cet homme donna un nom et un titre, Baron Pomperi, si je ne me trompe. »« Parfaitement, Baron Pomperi. Bien. Mais qui vous dit que cet homme est bien le Baron Pomperi ? Comment cela ? Qui nous dit même que le Baron Pomperi existe ? Et s'il existe réellement, que cet homme est bien le Baron Pomperi ? Comme je regardais Martin Numa avec étonnement, il me dit en riant « Mais oui, voilà un individu, un malfaiteur fieffé, un bel et bon assassin, qui, pris au piège, nous déclare qu'il est le baron Pomperi. Il aurait tout aussi bien pu nous dire qu'il était le marquis du Vésuve. Était-ce une raison pour le croire sur parole ? Mais le chevalier l'a bien cru. Pardon ? Le chevalier Fontis a reconnu seulement que le baron Pomperi était un ami de la Focamore, un ennemi du comte di Villacervoli. Eh bien, mais il n'a pas reconnu l'individu lui-même. Sans cela, il ne lui aurait pas demandé son nom. Très juste. Donc, jusqu'à preuve du contraire, j'estime que ce baron Pomperi n'est peut-être pas baron, et encore moins Pomperi. Vous oubliez donc, mon cher Courville, que nous sommes en pleine énigme, en plein mystère. nous connaissons dans toute cette affaire deux gentilshommes, deux vrais, deux authentiques, le comte di Villacerboli et le chevalier Fontis. Voilà tout, mais les autres, le prince Ramolino, le baron Pomperi et tutti quanti. Pour le public, ce sont des gentilshommes, pour moi, ce sont des bandits. Martin Numa avait pris dans les papiers étalés sur ses jambes deux cartons qu'il comparait, qu'il examinait longuement, minutieusement. Tout à coup, il s'écria. « Parbleu, je m'en doutais, je le savais !» Je m'écriai avec anxiété. « C'est la même fiche ?»« La même. » « Ah, c'est épouvantable !» Le mécanicien du comte di Villacerboli est l'homme que le chevalier Fontis a tué chez lui. « C'est le même individu ?»« Absolument, c'est le même individu !» Le baron Pomperi et le mécanicien ne font qu'un.